En direct des studios avec Rafik Djoumi et Olivier Desbrosses et moi-même, on va vous parler des Oscars 2024. C'est un Total Tracks totalement improvisé et un peu particulier.
C'est pas du tout improvisé, je suis pas d'accord.
Non, tu as préparé les morceaux, professeur. Bonjour, professeur.
Bonjour, bonjour.
Et bonjour, Rafik.
Bonjour, David.
En direct d'Hollywood.
Bah, pas vraiment. On aimerait bien.
Voilà.
Hein, faut nous envoyer les tipeurs, nos êtres de lumière qu'on aime tellement. Faut nous envoyer à Hollywood l'année prochaine qu'on vous commente en direct la cérémonie des Oscars. Qu'est-ce que vous en pensez?
On aurait des trucs à dire. Hein.
Sur la musique, oui. Surtout que c'est à peine expédié aux Oscars.
Écoute, apparemment, cette année, ça va être dans la cérémonie qui est diffusée. L'année dernière, ça n'était pas à l'antenne.
Ah bah peut-être parce qu'ils vont faire quelque chose pour John Williams avant qu'il disparaisse. Enfin, ils lui ont déjà donné un Oscar d'honneur, je crois.
Je crois pas, non.
Non ? Ah bah non. Ça va peut-être être pour cette année, parce que...
Bah, il a une nomination cette année, donc...
Et en plus, il est nominé.
Je pense qu'il ne manque pas d'Oscar, William, ça va pour lui.
Il y a les gens qui reçoivent les Oscars, et puis d'un autre côté, il y a les êtres de lumière, et moi, personnellement, je préfère être un être de lumière qu'un être oscarisé. Qu'est-ce que t'en penses, Rafik ?
Bah, les êtres de lumière, c'est de la lumière, c'est pas juste
un reflet
vaguement doré, voilà.
Non, c'est nos Oscars à nous.
C'est ça.
C'est ça, c'est bien dit.
Et donc, on en a beaucoup.
Et c'est parce qu'on en a beaucoup, parce qu'on les aime beaucoup, que on s'est dit qu'on finalement leur donnait pas assez, on a toujours envie de leur donner plus. Ça fait un moment que Olivier se posait la question de savoir si on avait moyen de faire des sortes de mini épisodes consacrés à des sujets qui soient plus d'actualité, et en fait on s'est dit que c'était l'occasion de tester le format, d'où cette émission qui effectivement non pas improvisé, parce qu'on a quand même un Olivier qui s'est quand même tapé les scores dont on va parler mais improvisé au sens où on ne sait pas trop de quoi on va parler, si ce n'est de ceux qui sont nominés cette année.
Et donc cette année, c'est la 96e cérémonie des Oscars qui se déroulera le 10 mars prochain au Dolby Theater d'Hollywood.
Et alors, les Oscars ont démarré en 1929, mais la musique n'a été considérée qu'à partir de 1935.
Un jour, peut-être, ferons-nous un épisode qui retrace l'histoire de la musique de film aux Oscars. Il y aurait certainement des choses à dire. Et voir, voilà, ce qui a été privilégié au fil des ans, quel style musical.
Et puis l'évolution des catégories, parce qu'il y a eu plein de catégories différentes. Au début, tout était mélangé, les musiques classiques utilisé étant jugé au même niveau que les musiques composées pour les films, etc. Après, ça a été séparé. Après, il y a eu différentes catégories avec les musicaux, pas les musicaux, etc.
Et puis, ça donnera peut-être aussi l'occasion d'écouter quelques beaux medleys, parce que certains de nos compositeurs préférés se sont fendus de medleys absolument géniaux. Je pense à Williams particulièrement. Et de morceaux rares, comme celui qu'on a entendu en ouverture de ce podcast, parce que...
Voilà, qui était la fanfare For Oscar, qui a été composée, je crois que c'est en 97, dans ces eaux-là, par Jerry Goldsmith. Mm-hmm. Qui n'a jamais été disponible officiellement et dont le seul enregistrement qui existe est celui de la diffusion lors de la cérémonie cette année-là. Elle n'a jamais été rejouée après.
Non, c'est dommage. Hein.
C'est super dommage parce qu'elle est bien cette musique.
Et on a aussi Bill Conti qui a dirigé pas mal de cérémonies qui du coup faisait aussi des espèces de mini-medley, mini-compilations des musiques marquantes de l'année.
Oui, et d'ailleurs je connais très bien quelqu'un qui a travaillé sur l'organisation de la musique pour une des cérémonies des Oscars et on pourrait peut-être même lui en parler et l'interviewer là-dessus. C'est juste un sujet de plus à la liste des 428 sujets qu'on a déjà de potentiel à faire cette année.
Alors si on parlait des nominés de cette année.
Donc cette année, il y a 5 nommés.
Il y a American Fiction Music de Laura Cartman, Indiana Jones et le cadran de la destinée, musique de John Williams, Killer of the Flower Moon, musique de Robbie Robertson, Oppenheimer, musique de Ludwig Göransson, et il y a Pauvre Créature, musique de Jerskin Fendricks.
Son père, c'était Jimi Fendricks.
Excellent, j'aurais dû la faire d'ailleurs.
Alors, petite précision d'entrée, nous n'avons pas vu tous les films.
C'est vrai, et d'ailleurs, si on doit commencer avec un, on va commencer avec American Fiction.
Que vous n'avez pas vu.
Que nous n'avons pas vu, toi non plus.
Non.
Il n'est pas sorti en France.
C'est un film de 2023, réalisé par Cord Jefferson.
Avec Jeffrey Wright.
Exactement.
C'est l'histoire d'un écrivain de la bonne société afro-américaine, on va dire, qui s'appelle Thelonious Ellison, et qui a des soucis avec son éditeur, qui trouve que ce qu'il écrit n'est pas assez noir et qui, sous le coup de la colère par rapport à ça, décide d'écrire un bouquin qui soit justement ultra stéréotypé comme une critique en fait de ce type de littérature, sauf que le problème c'est que ça va être pris au premier degré et que ça va être un succès.
Alors qu'il pensait avoir écrit une merde quoi.
Une merde qui dénonçait en fait le caractère stéréotypé de la littérature dite noire.
Ça peut être assez amusant.
Puis en plus Jeffrey Wright est un excellent comédien.
La musique est signée Laura Cartman, mais je connais pas Laura Cartman.
Tu connais pas Laura Cartman ?
Non.
Alors Laura Cartman, elle s'est fait connaître en, je crois, 2002, en faisant la musique d'une série produite par Spielberg qui s'appelle Taken. T'as jamais vu ça ?
Non, mais j'aurais pu, mais je l'ai pas vu.
Pourtant, c'est de la SF, Taken.
Ouais, je suis pas hyper branché série télé, surtout à cette époque-là.
Avec les grands débuts de Dakota Fanning, qui tournera après avec Spielberg dans La Guerre des Mondes. Et donc, on avait remarqué Laura Cartman à l'époque, c'était un de ses premiers travaux. Et c'était bien. Et c'était sorti en disque d'ailleurs. Et puis récemment, elle a aussi fait une série qui s'appelle Lovecraft Country, la série animée Marvel What If, qui réimagine en fait de manière totalement différente des aventures de certains personnages avec des contextes complètement modifiés par rapport à la storyline des films.
C'est pas mal foutu.
C'est pas mal, et surtout la musique est vraiment super bien. C'est une des meilleures musiques Marvel de ces dernières années, donc franchement elle a bien bossé.
Mais elle a fait aussi le film The Marvels, non ?
Elle a fait The Marvels, le film, et elle a fait Mrs. Marvel aussi, la série Disney+.
Oui, et dont la musique aussi est pas mal du tout. Il y avait tout un environnement hindou, etc., sur lequel elle a pu s'amuser avec la musique, et c'est plutôt réussi.
Oui, globalement, elle maîtrise parfaitement son art, donc elle n'est pas...
Et l'art de porter les lunettes de soleil aussi.
Oui. Elle a des lunettes excentriques.
Et j'ai failli la rencontrer. Je vous parlais dans un épisode il y a quelque temps du Festival d'Annecy où j'avais été une fois et où j'avais été en contact avec elle par la messagerie interne du festival et on n'a jamais réussi à se retrouver en fait. Et c'est dommage parce que c'est pas si souvent que les compositeurs américains sont en France. Voilà, et pourquoi elle est nommée aux Oscars, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est pas ce qu'elle a fait de mieux. C'est pas mal, hein. C'est un score plutôt jazz. Il y a un côté Greenwich Village en fait dans la musique, mais je trouve pas que ce soit non plus remarquable que ça. Et certainement moins remarquable que d'autres choses qu'elle a faites précédemment.
Mais écoutons quand même.
Et on écoute donc un morceau d'American Fiction qui s'appelle Family Is Monk Is.
Ok. Bon, écoute, professeur, c'est pas désagréable à écouter, mais voilà, est-ce que c'est vraiment très notable ?
Non, mais c'est de la musique.
C'est de la musique, il y a un côté un peu jazzy, il y a un côté un peu moderne, voilà. Alors, je continue avec les nominations aux Oscars, passons au deuxième film, Killers of the Flower Moon, le film de Scorsese, musique de Robbie Robertson.
Quand même une importance manifeste dans le film, notamment son morceau d'ouverture.
C'est celui qu'on va écouter d'ailleurs, qui est vraiment remarquable pour le coup,
ouais.
Plus que le reste.
C'est vrai que le reste du film, c'est un peu en retrait, mais c'est vrai que cette musique qui t'accueille au début, elle est. Moi, je suis pas forcément fan musicalement du truc, mais la scène est tellement étonnante que du coup, ça, le fait d'avoir une musique inattendue, enfin un style de musique inattendue comme celui-ci, ça fait son effet dramatique et puis ça te met bien en condition pour le reste du film. Alors, on précise pour ceux qui n'ont pas vu qu'il y a voilà. Flower Moon, ça commence par des Indiens qui découvrent du pétrole sur leur terre et donc on a cette image évidemment de l'or noir qui surgit et qui les éclabousse et ils se mettent à danser comme le font les Indiens, on imagine, dans un effet qui est presque un effet de vidéoclip, en fait. C'est très graphique, avec des beaux ralentis, le pétrole qui éclabousse leur torse, etc. Et donc, t'as ce morceau, je sais même pas comment le définir, syncopé, en fait.
En fait, je trouve que ça a plus des consonances de blues, quelque part.
Oui, mais
une rythmique de blues.
Il y a le côté syncope, en fait, qui est très marquant, je trouve.
Parce qu'en fait, Robbie Robertson, c'est quelqu'un qui a été important pour Scorsese.
Clairement.
Oui. Ils se sont rencontrés dans les années 70, au moment où Scorsese a filmé un concert d'un groupe qui s'appelle The Band. C'est le producteur du concert, qui était aussi producteur de Mean Streets, qui les a fait se rencontrer.
C'est ça, voilà.
Et Scorsese a décidé de filmer un concert qui était, en fait, le dernier concert du groupe avant leur séparation, le 25 novembre 1976, San Francisco. Ça s'appelle The Last Waltz.
Le groupe s'appelle The Band,
dont Robbie Robertson était membre.
Parce qu'il a commencé à collaborer avec Bob Dylan au départ, avant The Band.
Et d'ailleurs, Bob Dylan a fait partie des invités de ce concert, et d'ailleurs a foutu une zone pas possible, parce que c'est comme ça que Scorsese avait réussi à obtenir les budgets pour filmer le concert.
Mm-hmm.
Et Dylan, à un moment donné, dit « Non, mais en fait, je veux pas qu'on me filme ». Et si on le filmait pas, il perdait $1 million de budget pour faire son concert filmé. Ça s'est réglé au final, mais ça a été assez tendu. Et donc, ils sont restés amis avec Robertson, qui a ensuite fait 5 films avec Scorsese.
Donc, tu as donné le titre du film, hein, c'est La Dernière Valse.
Oui, c'est ça.
The Last Waltz.
C'est ça.
C'était la première fois qu'on préparait autant un concert filmé. Ils avaient une Bible de presque 200 pages, dans laquelle Robbie Robertson avait mis toutes les paroles de toutes les chansons, en indiquant exactement à quel moment tel musicien allait jouer telle note et tout ça. Enfin, en gros, Scorsese avait un storyboard presque de...
Oui, parce que au niveau des invités, c'est rare d'avoir un casting pareil, parce qu'au-delà du groupe, il y avait Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Diamond, Emmylou Harris, Johnny Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood et Neil Young, entre autres.
Et du coup, ils sont effectivement restés en contact, puisqu'il a donc travaillé sur des films de Scorsese.
Oui, il a travaillé sur Raging Bull.
Tout à fait.
Où il n'y a quasiment pas de score, hein. Il y a très très peu de score, puisque c'est essentiellement Cavalleria Rusticana qui est utilisé dans le film de mémoire.
Et c'est Robertson qui l'avait choisi.
Il a fait The King of Comedy.
Tout à fait.
Où il y a aussi peu de musique.
Il y a 3 morceaux, je crois, de lui.
C'est ça. Il a fait The Color of Money, où il y a un peu plus de musique déjà. Il a fait The Irishman, où il n'y a qu'un seul thème globalement, mais qui est répété plusieurs fois dans le film en 2019. Et son dernier, Killers of the Flower Moon, en 2023.
Il a fait aussi de la supervision musicale pour Casino, Gangs of New York. Enfin, en tout cas, c'est vraiment des collaborateurs réguliers. Quoi.
Et ça sera son dernier film et sa dernière musique.
Oui, parce qu'il est mort en 2023.
Il est mort en août 2023. Donc,
et donc, c'est une nomination posthume.
Exactement. Ce qui est rare aux Oscars.
Et le film lui est dédié.
Donc, écoutez, on aura rarement l'occasion de reparler de Robbie Robertson. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a très peu de choses en disque de ce qu'il a fait sur les films sur lesquels il a travaillé. Donc, on va quand même écouter ce morceau de Killers of the Flower Moon qui s'appelle Osage Oil Boom. Et c'est pas mal. Voilà, bref, on disait que le film, on l'a quand même beaucoup, beaucoup apprécié.
Oui.
C'est pas le meilleur Scorsese, mais c'est un excellent Scorsese.
C'est du cinéma. Ça existe encore, ça fait plaisir.
Qui raconte une histoire avec des comédiens qui sont magnifiques tous. Ça fait du bien de voir ça, en fait.
Avec des prises de vue étonnantes d'un réalisateur qui n'a plus rien à prouver, mais qui continue à se dire « Ah tiens, et si j'essayais de faire un plan vraiment classe ?» Où le spectateur puisse se dire « Oh, je suis pas chez moi. Je suis en train de regarder un film sur un grand écran. »
Il doit avoir d'autres nominations, je pense, le film.
Il est aussi nominé comme meilleur film et Martin Scorsese pour la meilleure réalisation.
Enchaînons sur un autre film, peut-être.
On pourrait parler des heures de Oppenheimer, dont la musique de Ludwig Göransson nous a enjaillé les oreilles.
Toujours pas vu.
Non, mais c'est moi, bien, tu rates rien.
J'aime bien.
Moi, j'ai bien aimé le film.
Nolan, hein. Ah bon
et ça a même amené Stéphanie à dire que c'était probablement le meilleur film de Christopher Nolan.
Ah bon ? Ah bah dis donc.
Ça n'est pas rien.
Ah bon ?
Ah bah, je suis pas d'accord, hein, personnellement. Pour moi, le meilleur film de Christopher Nolan, c'est Le Prestige.
Voilà. C'est vrai que c'est bien, Le Prestige.
C'est très bien, Le Prestige.
Que vaut cette musique de Ludwig Göransson ?
Pas grand-chose.
Bah, y a des morceaux qui sont écoutables. Celui qu'on a choisi l'est, évidemment, parce qu'on essaie toujours de sortir le meilleur. Le score est un peu long, et puis surtout...
Comme le film.
Le mixage du film est assez intense.
Ouais.
Il y a énormément d'effets sonores et de volume et d'infrabasses, etc. Donc ça se ressent aussi dans la composition de la musique. Mais globalement, le mec a fait le job qui lui était demandé. Donc déjà, c'est pas mal. C'est pas un grand album, mais il y a quelques morceaux qui sont plutôt sympathiques.
Bah, Göransson, on l'a apprécié.
On en a parlé en long en large dans notre épisode consacré aux musiques de Star Wars hors John Williams.
Exactement.
On a fait tout un épisode consacré à ça. Évidemment, on parlait entre autres de The Mandalorian.
Qui démarrait tout juste à l'époque, je crois. Hein.
Il s'est pas tapé un Creed, Göransson ?
Non, il s'est tapé 2 Creed et demi.
Ouais, c'est ça. Donc
sur le troisième, il n'a pas vraiment eu le temps de travailler, donc il a filé ça à quelqu'un d'autre avec ses thèmes à lui. Mais clairement, Creed, c'était du pur Bill Conti à la sauce Ludwig Göransson. Mais c'est plutôt bien fait. Il a fait des trucs pas bien hein, dans sa carrière. Moi, je suis pas du tout fan de ce qu'il a fait, par exemple, sur Black Panther, surtout le deuxième. Pourtant, le premier Black Panther lui a permis d'avoir un Oscar.
Ah, il a eu un Oscar.
Encore une fois, c'est la logique des Oscars. C'était un film avec que des blacks, donc c'était forcément un super film et il fallait qu'il ait des nominations. Sauf qu'une nomination pour meilleur acteur ou tout ça pour un film de super-héros, ça passe pas trop. Donc on va le filer à la musique, quoi. Je sais pas s'il en a eu d'autres, hein, je me souviens pas, mais... Tout ça est un show, il n'y a pas ni de véritable récompense, ni de véritable sincérité là,
oui,
les Oscars.
C'est
entièrement du business.
C'est un peu dommage, parce que ça retire toute crédibilité aux prix qui sont donnés, quoi. Qu'on récompense pour autre chose que
d'une certaine façon, oui, c'est vrai.
Choses,
c'est vrai.
Non, mais c'est intéressant, symboliquement, parce que ça veut dire que Göransson est doucement, mais sûrement en train de remplacer Hans Zimmer comme étant la nouvelle rockstar de la musique de film.
Bah, je préfère Göransson, franchement. Hein. Même si ce qu'il a fait sur le précédent Nolan, puisqu'il avait déjà bossé avec lui sur Tenet, j'avais trouvé ça totalement inécoutable. Mais bon, pour le coup, j'aime pas du tout le film.
Le film est invisible non plus. Donc,
c'est ça. Alors, il a aussi bossé sur Venom, le premier, parce que le deuxième, c'était Beltrami, de mémoire. C'était pas ouf non plus ce qu'il avait fait. Donc, Göransson, c'est un peu... Ça dépend des projets, mais il y a des projets où il s'en tire plutôt bien. Sur Mandalorian, il y a des choses vraiment bien. Et c'est un peu le favori pour la presse, puisqu'il a eu déjà le Golden Globe pour Oppenheimer.
Mais est-ce que c'est dû à lui ou est-ce que c'est dû à Oppenheimer qui défraie les chroniques.
Bah, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur qui sont les votants, parce que on a toujours tendance à récompenser des musiques, des films qu'on aime. Et non pas les meilleures musiques de films qu'on n'aime pas forcément. C'est pour ça qu'on arrive à des extrêmes comme on a eu dans les années 90 où il y avait une victoire aux Oscars qui était absolument ridicule. C'était celle d'Anne Dudley, qui par ailleurs est une compositrice tout à fait excellente.
Oh oui.
Mais qui sur The Full Monty avait fait 12 minutes de score dans le film. Et elle a eu l'Oscar, qui a été donné non pas à elle, mais aux chansons qu'ils ont utilisées dans le film en fait. C'est-à-dire que les gens qui votent, c'est pas des professionnels, c'est pas possible en fait. Un professionnel sait comment ça marche. Il sait que la synchro, la musique qui est achetée pour être mise dans le film, c'est pas le compositeur du film qui le fait. Donc il sait que Diana Ross, elle avait fait sa chanson avant d'être dans The Full Monty. Donc je sais pas qui sont les gens qui votent. Franchement, j'ai toujours été perplexe vis-à-vis de ça. Mais c'est une réflexion tout à fait personnelle. Hein. Si vous voulez admirer les Oscars, vous êtes tout à fait libre de le faire. Moi, j'y crois plus depuis très longtemps.
Si vous recherchez d'autres façons d'illustrer musicalement ce sujet au cinéma, je vous renvoie vers l'existence quand même d'un score de Ennio Morricone pour le film Fat Man and Little Boy,
qui est un bon film de Roland Joffé.
Les Maîtres de l'Ombre de Roland Joffé, voilà, sorti en 89, qui raconte en gros la même,
exactement,
la même histoire.
Et bien c'est parti pour Oppenheimer de Ludwig Göransson.
Voilà, c'est un morceau qui s'appelle, de manière assez appropriée, Can You Hear the Music? Thank you.
Oui, moi, ça me rappelle les scores un peu répétitifs de Philip Glass ou de Michael Nyman, parce qu'il y a aussi ce rappel visuel de ce qui a été fait, par exemple, dans Koyaanisqatsi ou Powakasi.
Oui, une forme de sécheresse musicale dans un style assez particulier. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien.
La musique s'adapte très bien avec les images qui sont montrées sur l'écran, donc il n'y a rien à dire, il fait le boulot. Passons au film suivant qui s'appelle Pauvre créature en français, Poor Things.
On l'a pas vu non plus, je sais pas s'il est sorti en France encore.
Oui, il est sorti, oui.
C'est une musique de Jerskin Fendrix. Oh, j'ai du mal. Hein.
Tout est facile à prononcer dans ce film parce que c'est un film de Yorgos Lanthimos.
Ah bon, en plus.
Voilà. Effectivement, on n'a pas vu le film.
Ça va être un projet assez intriguant, curieux, voilà, avec Emma Stone. Mais comme on l'a pas vu, on peut pas vraiment en parler.
Avec
du coup.
Apparemment Willem Dafoe en savant fou. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. On m'a raconté quelques trucs du film et je sais que ce qui touche au personnage de Willem Dafoe avait l'air rigolo, donc je sais.
Oui, parce qu'il a été retouché. Il a des espèces de morceaux de visage sur le visage.
Donc on n'a pas vu. On verra. En attendant, Olivier s'est sacrifié et a écouté l'album entier.
Voilà, de Jerskin Fendrix. C'est un musicien anglais, de la scène anglaise plutôt électro-rock, ce genre de truc, qui a participé à des groupes dont on connaît pas grand-chose, comme Black Midi, Black Country, New Road, etc. C'est sa première musique de film, c'est une musique si on veut. Je l'avais écouté déjà quand l'album était sorti pour le mettre sur La Grande Évasion. Je l'ai pas mis, je l'ai mis à la place dans la corbeille. Quand il a eu la nomination à l'Oscar et qu'on s'est dit on va faire un petit épisode dessus, du coup j'étais obligé de le sortir de la corbeille pour le réécouter et pour vous sélectionner le meilleur morceau de l'album, sachant qu'il a déjà été récompensé également puisqu'il a eu le Georges Delerue Award à la 50e édition du festival du film de Gand avant sa nomination aux Oscars. Pourquoi il est nommé? Je sais pas. Et si jamais c'est lui qui gagne, je mange mon chapeau.
Il est nommé parce que le film a fait sa petite sensation critique et que du coup, ça en fait un favori aux Oscars et qu'en gros, il fallait le caser quelque part. Mais c'est vrai, bon, moi j'ai pas écouté la musique. Hein,
mais il a d'autres nominations que ça, le film. Hein.
Mais c'est vrai que le mec, il déboule de nulle part, qui fait un premier score, qui d'emblée se retrouve nominé. Et il en a eu plein. Il a été nommé par le Chicago Film Critics Association, Washington DC, il est bien sûr au Golden Globe, l'Astra Film Creative Arts Award.
Voilà, donc on est écoute le morceau et puis vous allez dire après ce que vous en pensez. Je précise que ce morceau a été choisi parce que c'est le plus musical de l'album.
Alors moi, est-ce que vous vous souvenez de l'officiel des spectacles, les enfants ?
Oui, bien
sûr. Alors vous savez que ça existe toujours sous forme de site internet, et c'est d'ailleurs là que je regardais la liste des nominations pour les meilleures musiques de films et les autres nominations aux Oscars. Et donc j'ai cliqué sur le lien de Pauvre Créature, qui m'a ouvert une autre page de l'officiel des spectacles, dans lequel il y a des critiques des spectateurs. Et donc il y a une critique avec une étoile sur cinq, publiée par un certain Paul Henry, qui dit « Belle prestation des acteurs ». Mais la musique et le son sont insupportables. Je n'avais jamais ressenti une telle envie de quitter la salle. C'était horrible. Donc, ça vous donne une idée de ce que peut donner ce type de musique de film dans un film sur un spectateur lambda.
Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qu'on vient d'écouter là ?
C'est horrible.
Question, est-ce que c'est de la musique ou pas ?
Ah, c'est de la musique, mais c'est joué faux, volontairement.
Parce que tu donnes... c'est pas faux, c'est désaccordé. Mais tu donnes une guitare à quelqu'un qui sait pas jouer et qui s'est pas accordé un instrument, il va te faire la même chose,
non,
en fait.
Tu comprends pas. T'as pas vu le film, c'est en rapport avec le côté complètement désaccordé des personnages.
Et si ça se trouve, ça marche dans le film.
Non, je pense pas.
Mais
bah non,
c'est pas
possible.
Non, mais c'est pas sur un spectateur qu'on peut se baser. Mais si ça se trouve, ça marche dans le film.
Non.
Parce que on nous dit tout le temps, ouais, la musique, elle est pas forcément écoutable en dehors, mais ça marche dans le film. Ça suffit pas, bordel.
Non.
Ça suffit pas que la musique, elle marche dans le film. Dans ce cas-là, bah, gardons-la dans le film et puis n'en parlons plus jamais, quoi. Cette musique, elle est sortie, pas en disque physique, mais elle est sortie en téléchargement. Et vu le succès du film et les awards qu'il est en train de ramasser, à mon avis, elle va sortir en vinyle, hein, pour tous les petits hipsters.
Je te l'offre.
Moi, ça m'énerve qu'on me dise que ça marche dans le film. Ça marche pas seulement dans le film John Williams, ça marche hors des films. Tous les compositeurs dont on vous parle, ça marche hors des films aussi.
Et bien, justement, puisqu'on parle de John Williams, c'est la dernière nomination de cette série de nominations pour la meilleure musique de film aux Oscars 2024.
Alors lui, c'est pas sa première. Déjà, à l'âge qu'il a, il a une carrière qui s'est quand même étendue sur 7 décennies.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Déjà, c'est pas mal. Et c'est sa 54e nomination.
Il va pas battre un record là, à ce niveau-là.
Non, parce que alors
c'est Disney qui a.
C'est le record des personnes vivantes. Mais je pense pas qu'il pourra battre Walt Disney qui a été nommé 59 fois. Mais Disney, il était nommé comme producteur, etc.
C'est ça.
Williams, il a été nommé 54 fois pour son travail, pas pour représenter le travail de quelqu'un d'autre.
Je pense que dans une catégorie, il doit détenir le record. Parce dans une seule catégorie, c'est probablement le recordman.
Il a dépassé celle qui détenait le record avant, qui était Edith Head, la costumière de Hitchcock, etc., qui avait, je crois, 49 nominations, comme ça. Elle y était parfois 3 ou 4 fois dans l'année, en fait.
On avait l'impression qu'il y avait qu'elle à Hollywood pour habiller les acteurs.
Et donc, Williams, sa première nomination, c'était il y a 55 ans. Et il a eu 5 fois depuis pour Le violon sur le toit, Les dents de la mer, Star Wars épisode 4, et la liste de Schindler. Ce qui veut dire que ça fait littéralement 30 ans que l'Académie des Oscars le boude, alors qu'il est nommé pas tous les ans, mais pas loin. Il l'était encore l'année dernière avec The Fabelmans, donc je pense pas qu'il l'aura non plus cette année.
Bah non, parce que là, ça serait pas mérité, justement.
Bah si, c'est meilleur que le reste. Hein.
Qu'est-ce que t'es en train de suggérer, Olivier? Que John Williams serait un homme blanc hétérosexuel de plus de 60 ans?
Probablement.
De plus de 90 ans, maintenant.
Probablement de plus de 60 ans, je pense, oui.
C'est étonnant quand même qu'il n'ait pas eu d'Oscar depuis Schindler's List, parce qu'il en a fait un paquet de bons scores depuis.
Entre l'impact culturel d'un artiste et ce que les Oscars en font, enfin, il y a toujours un pas. Et effectivement, tu te dis que le mec qui a marqué toute une génération qui n'est pas la nôtre, hein, avec Harry Potter,
par exemple,
il méritait 15 fois l'Oscar. Son travail pour tous les Spielberg, toujours fantastique, mais peut-être qu'ils se sont dit qu'ils en ont trop fait, qu'ils lui ont trop donné de récompenses.
Bon, en même temps, je pense pas qu'il attende après maintenant.
Faut passer
à la
jeunesse.
Je pense qu'il en a plein. Hein. Il a 25 Grammy, il a je sais pas combien de Golden Globes,
faut
ça va.
Passer à Jerskin Fendrix, c'est tout. Donc faites place aux végétariens.
C'est possible, je crois que Gustavo Santaolalla l'a eu, alors que c'est littéralement un guitariste qui gratouille, quoi. Tout ce qu'il fait d'un peu plus élaboré, c'est pas lui qui le fait. C'est pas l'objet des Oscars, c'est...
En tout cas, on vous a parlé de Indiana Jones et le cadran de la destinée dans notre épisode 4 ou 5 consacré à Indiana Jones, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est un score qui a bénéficié quand même de la collaboration, je trouve, bienvenue du réalisateur, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces blockbusters, puisque James Mangold était très impliqué dans la musique du film, parce qu'il avait cette idée de faire en sorte que la musique d'Indiana Jones ne trouve ses repères que lorsque le personnage les trouvait dans le film. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie du film où en fait il fallait que ce soit un peu confus au niveau des thématiques, avant que dès l'instant où Indiana Jones a d'une certaine façon réendossé ses bottes, quoi, là on retrouve la musique dont on était familier, et effectivement dans le film, sur un plan narratif, ça marchait plutôt bien.
Non mais cela dit, vous avez raison, en tout cas de notre point de vue d'amateur de musique de film, c'est ce qu'il y a de mieux dans toute la sélection.
Oui, mais ça reflète d'une part le fait que la musique, ça s'est quand même un peu dégradé, hein, et qu'il faut pas forcément blâmer les compositeurs, parce qu'on les laisse pas forcément faire ce qu'ils savent faire. On laisse pas forcément faire leur métier. Il y en a plein qui nous le disent, hein, donc c'est pas une découverte. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nivellement par le bas, et qu'en plus de ça, il y a des effets comme ça, un peu whiz, de gens qui vont être mis en avant pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la musique qu'ils ont faite, ni la qualité de ce qu'ils ont fait.
Et la question que je me pose maintenant, professeur Rafik, est-ce que John refait une musique de film ou Indy c'était le dernier?
Pas pour l'instant, mais il n'est pas fermé à l'idée.
La question que j'ai pour Olivier, c'est quel est ton nominé pour cette année?
Alors, je pense que je crois que c'est sorti fin 2023. C'est pas forcément mon choix final, mais celui qui me vient à l'esprit là, alors que tu me poses la question sans que j'ai préparé, ce serait The Boys in the Boat de Alexandre Desplat.
Ah ouais.
Le nouveau film de Georges Clooney. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. C'est une musique de film sportif, un peu à la Rudy, un peu dans la tradition des films sportifs américains des années 80-90.
Je vois.
Mais donc, il a déjà eu l'Oscar.
Mais il est pas nommé de toute façon. Mais il y en aura peut-être qui vont passer par-dessus après.
Eh ben écoutez, on attendra les résultats comme vous ou pas.
Alors dites-nous, c'est qui votre favori
voilà. Allez sur le Discord et lâchez-vous.
Toi, c'est quoi ton favori ?
Honnêtement, je voterai pour Robbie Robertson à titre posthume. Parce que j'ai écouté de la musique qui était bien sympathique. Mmh. Donc pourquoi pas. Maintenant, évidemment, je le donnerai à chaque fois à John Williams. Mais là, ça m'embête un peu parce que je trouve qu'il ne le mérite pas sur celui-là. Mais bon, c'est un autre sujet.
Et toi, Rafik ?
Ce serait forcément John Williams parce que ça me semble être celui qui correspond le plus à mes habitudes de spectateur et d'auditeur.
Mon cœur irait aussi vers John Williams, mais si on est plus cartésien, je dirais que ce sera très probablement Ludwig Göransson pour Oppenheimer.
D'accord.
Oui, ne serait-ce que parce que Oppenheimer va remporter plein d'Oscars puisqu'il a remporté l'amour du public, en tout cas aux États-Unis.
Voilà, et en tout cas, je préférais que ce soit Oppenheimer plutôt que Barbie qui ramasse des prix parce que Barbie n'a pas de nomination en musique, mais il a deux nominations en chanson, il va probablement gagner. Mais j'aimerais bien qu'il n'ait pas d'autres Oscars que ça parce que Barbie, c'est quand même bien de la merde.
Bon, allez,
on espère que cet épisode un peu expérimental et un peu bordélique vous a quand même plu.
Oui.
C'est vraiment juste un petit bonus comme ça pour préparer les Oscars. Mais si on continue à faire des petites choses courtes, qui seront certainement plus courtes que ça d'ailleurs, parce que là, ça fait déjà...
Moi, ça y est, j'ai trouvé pour qui je vote cette année.
Ça fait déjà une heure qu'on parle, c'est beaucoup trop.
Je vote pour John Morris, la musique qu'il a fait pour Cluedo, le film de 1985.
Voilà. Que vous pouvez écouter sur lagrandeévasion.fr.
Vous pouvez écouter sur lagrandeévasion.fr.
Et voilà, lagrandeévasion.fr. La meilleure radio de musique de film en ligne. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous inscrire à notre Tipeee ou à notre Patreon, devenir un être de lumière, car les êtres de lumière sont des êtres extraordinaires. On termine cet épisode en écoutant un morceau de Indiana Jones and the Dial of Destiny.
Qu'on a déjà mis dans l'épisode, mais qui est très bien, qui est le thème d'Elena. Franchement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et on se retrouve dans un épisode plus régulier dans 3 jours.
Exactement. On vous embrasse.
Des bisous.
À bientôt.
Ciao.